Bonjour. Voici l'enregistrement pour la réunion du mois de juin 2020 de la municipalité de Saint-Jean-et-de-Lorient. Province de Québec, municipalité de Saint-Jean-et-de-Lorient, MRC de l'Île-d'Orléans. Assemblée ordinaire du 1er juin 2020. À la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Jean-et-de-Lorient, tenue à huis clos le 1er juin 2020 à 20h au centre administratif. 8 chemin des côtes à Saint-Jean étaient présents, tous présents. Mme Sandrine Rex, Alain Fortier, Jean Lachance, Élisabeth Lettler, Jean Lapointe, Alain Létourneau. Tous formant quorum sur la présidence de M. Jean-Claude Pouliot, maire. Chantal Daigle, directrice générale, est aussi présente et agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé jusqu'au 29 mars 2020 par le décret numéro 2022-2020 du 20 mars 2020, jusqu'au 7 avril 2020 par le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu'au 16 avril 2020 par le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu'au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020, jusqu'au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 jusqu'au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 jusqu'au 13 mai 2020 par le décret 501-2020 du 6 mai 2020 jusqu'au 20 mai 2020 par le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 jusqu'au 27 mai 2020 par le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 et jusqu'au 3 juin 2020 par le décret 544-2020 du 27 mai 2020. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui oblige de publiciser la séance dès que possible par un enregistrement audio ou vidéo, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos. En présence, le conseil autorise que la présente séance soit tenue à huis clos et enregistrée vocalement. Ordre du jour. 1. Lecture d'option de l'ordre du jour. 2. Acceptation du dernier procès-verbal. 2.1. Acceptation du dernier procès-verbal du 4 mai 2020. 3. Suivi au procès-verbal. 4. Autorisation des comptes à payer des dépenses incompressibles. Administration générale. 5. 5.1. Programmation partielle des travaux. TEC 2019-2023. 5.2. Maire suppléant. 5.3. Avis de motion politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. 5.4. Projet de règlement 2020-373, politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. 6. Sécurité publique. 6.1. Embauche d'une préventionniste. 6.2. Achat, services et sécurité incendie. 6.3. Entretien citerne Turcotte. 7. Transport routier. 7.1. Entente hors cours relative à la Côte-à-Fleur. 7.2. Programme d'aide à la voirie locale de Transport Québec. 7.3. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Adoption du règlement 2020-371 relatif à l'utilisation des éco-centres de la Ville de Québec. 8.2. Analyse d'eau 2020. 8.3. Prolongement du réseau d'égout. Phase 2. Honoraires supplémentaires. Remis. 9.3. Urbanisme. 9.1. Dérogation minérale 17 chemin des côtes. 10. Loisirs et culture. 10.1. Appel de soumission des plans et devis de la Grange Adim. 10.2. Contrat d'arpentage de la Grange Adim. 11. Correspondance. 12. Vario. Est-ce qu'il y a du Vario? Le chasson va rester ouvert. 13. Période de questions. 14. Levée d'assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté et demeure ouvert à tout autre sujet d'intérêt pour la municipalité. Qui propose l'ordre du jour? Madame Leclerc, secondée par M. Lapointe. Tout le monde d'accord? Unanime. 2. Acceptation du dernier procès-verbal. 2.1. Acceptation du procès-verbal du 4 mai 2020. Il est proposé par, puis par, et il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020 soit accepté tel que présenté. Est-ce qu'il vous semble conforme? Et qui propose? Madame Rex. Secondé par M. Fortier. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 3. Suivi au procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des grosses... Il n'y a pas grand-chose, il me semble. La grosse nouvelle, c'est que pour ceux qui ne sont pas au courant, on a reporté les taxes. Puis aussi, c'est qu'on a remis, remboursé les taxes sur les immeubles résidentiels, la taxe commerciale, à tous les commerces de la municipalité. Ça fait que certains d'entre vous qui ont des commerces ont eu des retours de taxes ou des crédits de taxes qui vous ont été adressés. Certains plus importants, tout dépendant de la valeur de votre établissement. Ça fait que j'espère que le tout saura vous satisfaire, vous aidera un peu dans les activités futures, parce qu'on sait que l'année va être quand même, dans le domaine touristique, va être relativement dur. Monsieur
Lachance. Oui, le crédit de taxe qu'on a eu, est-ce que c'est le crédit au complet ou c'est pour le paiement du mois de juin?
Non, c'est le crédit au complet.
C'est le crédit au complet?
C'est le crédit au complet, parce que nécessairement, on a enlevé complètement la taxe, OK? Fait que il y a des... Il y a des jeux dans les comptes de taxes qui sont faits. Celui qui ont fait les trois versements, bien, il y a un crédit, là, OK, mais j'ai des affaires comptables. Est-ce qu'il va y avoir des remboursements? Bien, il va y avoir nécessairement un remboursement à la fin. Là.
Non, c'est un crédit complet qui a été fait.
Un crédit complet,
ouais.
OK.
Un crédit complet de la taxe de 2020.
Sauf que, oui, il y a un crédit, mais sauf que celui qu'on peut faire le premier montant, puis qu'il reste les deux autres montants, là, OK, à un moment donné, il va y avoir un chèque qui va lui être donné.
Je vous dirais que la majorité nous ont demandé leur chèque de juin, ils l'ont refait au bon montant.
Ah, ils l'ont refait, OK. Mais ouais. Pour ceux-là qui auraient fait des chèques, bien nécessairement, s'ils ne demandent pas de remettre les chèques, ils vont nécessairement avoir un...
Il va avoir un crédit sur la taxe de 2021, c'est le choix qu'on donnait aux gens.
Okay.
On pouvait leur retourner leur chèque pour qu'ils nous en refassent des nouveaux. Ou sinon, ben ils peuvent le laisser dans leur dossier. Puis, sur la taxe de 2021, il va avoir le crédit qui va s'appliquer.
C'est beau. Mais ça, c'est toujours une question administrative là, pour la femme. Mais les crédits ont été donnés. Il y a aussi, c'est qu'on... j'avais une question là-dessus. L'inscription pour les terrains de jeu, c'est-tu commencé?
L'inscription, bien, elle a tout le temps été possible à Saint-François, sauf qu'ils n'ont pas encore déterminé là, le nombre d'enfants qui va pouvoir être sur place. C'est marqué sur leur page Internet que c'est...
Okay. J'ai demandé à M. Blouin, Rémi, de nous mettre un peu en priorité, compte tenu qu'on les supporte quand même depuis plusieurs années. Hein. Puis au fait qu'on donne aussi un crédit supplémentaire pour les enfants cette année, compte tenu de... la particularité de l'année. Hein. Je pense que ça fait pas mal le tour des événements du mois passé. C'est beau. 4. Autorisation des comptes à payer des dépenses incompressibles. Il est proposé par, puis par, il est résolu que le paiement des comptes totalisant 87 980 et 41 soit autorisé, que le maire, la directrice générale, secrétaire trésorière ou son adjoint soit autorisé à signer les chèques et les virements pour et au nom de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions sur le paiement? Oui.
Le numéro 22...
Excusez, Monsieur Lachance pose une question.
Le numéro 22 et le numéro 23. Le numéro 23, c'est les deux, c'est l'avocat qu'on paye. Au numéro 23, c'est pour la Côte de la Flamme.
C'est ça.
Au numéro 22, c'est dossier général, c'est quoi? C'est plusieurs dossiers ou c'est un dossier...
Différentes demandes... Ça peut être de tout ordre. Okay. Des fois, on téléphone à l'avocat pour avoir certains renseignements. Ça peut être de tout ordre. Là.
Il y a tout le temps un dossier général que là-dedans, il met les petites communications ou les appels ou des dossiers à la cour, mettons les constats d'infraction, que ce ne sera pas un gros dossier à monter, il met ça dans le dossier général. Quand que c'est vraiment un dossier particulier, bien là, il fait une facturation différente à part.
C'est bon.
C'est sûr que ce n'est pas donné, les avocats. Hein?
Non.
Est-ce que l'autre question?
C'est juste les avocats, on n'a pas été en cours.
Ah non, non, c'est
pas été en
cours. Non, non, c'est... Est-ce que d'autres questions?
Non, c'est beau.
C'est beau. Qui propose?
Non, non.
Monsieur Letourneau, secondé par Monsieur Lachance. Tout le monde d'accord? Unanime. 5. Administration générale. 5.1. Programmation partielle des travaux TEC 2019-2023. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par, secondé par, et il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste que, par la présente résolution, que la programmation des travaux numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Qui propose? Madame Rex, secondée par M. Lachance. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 5.2, maire suppléant. Il est proposé par, secondé par, et il est résolu de nommer Jean Lapointe, conseiller numéro 5, comme maire suppléant et comme substitut du maire pour siéger aux séances de la MRC de l'Île d'Orléans, si nécessaire, du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Qui propose? Madame Leclerc, secondé par M. Letourneau. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 5.3, avis de motion politique de prévention du harcèlement de l'incivilité et de la violence au travail. L'avis de motion est donné par annonçant la présentation d'un règlement numéro 2020-373 relatif à une politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Lapointe. C'est beau, merci. 5.4, projet du règlement 2020-373, politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail, c'est après LNT, prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la municipalité de Saint-Jean s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement. de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Attendu que la municipalité de Saint-Jean entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité et de violence dans un milieu de travail, dans son milieu de travail. Attendu que la municipalité de Saint-Jean ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence que dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. En conséquence, il est proposé par, secondé par, il est résolu de présenter le projet de règlement 2020-372.
373, pardon, j'ai fait une coquille.
OK, 373. Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de violence au travail. Objectif de politique, la présente politique vise à développer une culture organisationnelle empreinte de respect, prendre des moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser toute forme de harcèlement psychologique ou sexuel, d'incivilité ou de violence au travail. Préciser les rôles et les responsabilités de tous les membres de l'organisation en lien avec la présente politique. Gérer et faire cesser efficacement les comportements de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Encourager les employés de la ville, municipalité ou MRC, à dénoncer toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail.
On va juste changer pour la municipalité de
Saint-Jean-de-Vermont. On avait le choix entre les trois, c'est pour ça. Assurer le soutien approprié dans la mesure où cela lui est possible aux victimes de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Champ d'application. Cette politique régit les relations entre collègues de travail, entre supérieurs, entre cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre les employés et les élus, entre les employés et les fournisseurs de la municipalité de Saint-Jean, ainsi que de celles entre employés et tout autre tiers. Cette politique s'applique aux conduites pouvant survenir dans le cadre du travail et à l'occasion d'événements sociaux reliés au travail. Définition employé. Personne qui effectue un travail sous la direction ou le contrôle de l'employeur. Pour les fins de la présente politique, le bénévole est assimilé à un employé. Employeur, municipalité de Saint-Jean et Lorraine. Droit de gérance, le droit pour l'employeur de diriger ses employés et son organisation pour assurer la bonne marche et la profitabilité de la municipalité de Saint-Jean. Par exemple, suivi du rendement au travail, de l'absentéisme, de l'attribution des tâches ou de l'application d'un processus disciplinaire ou administratif. On ne doit pas confondre le harcèlement psychologique avec l'exercice de l'autorité de l'employeur dans la mesure où l'employeur n'exerce pas celle-ci de manière discriminatoire ou abusive. Harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des paroles, des actes, des comportements ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ou de nature à entraîner pour elle les conditions de travail défavorables qui rendent le milieu de travail néfaste. En général, le harcèlement se traduit par des actes répétés. Toutefois, un seul acte grave qui engendre un effet nocif continu peut aussi être considéré comme du harcèlement. Cette définition inclut le harcèlement lié à un motif de discrimination contenu aux chartes des droits et libertés, le harcèlement administratif, abus de pouvoir, et le harcèlement sexuel, c'est après collectivement harcèlement. Harcèlement sexuel. Pour précision, le harcèlement sexuel se caractérise par des paroles, des actes, des comportements ou des gestes de nature ou à connotation sexuelle. Il peut se manifester notamment par des avances, des demandes de faveur, des invitations ou des requêtes inopportunes à caractère sexuel, des commentaires d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la personne. Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pincements, des empoignades, des frôlements volontaires, des menaces ou des représailles ou toute autre injustice associée à des faveurs sexuelles. Incivilité, une conduite qui enfreint l'obligation de respect mutuel propre à toute relation en milieu de travail. Mise en cause. La personne qui aurait prétendument un comportement harcelant incivil ou violent et faisant l'objet d'un signalement ou d'une plainte, il peut s'agir d'un employé, incluant un cadre de la direction générale, d'un élu, d'un fournisseur, d'un citoyen ou d'un tiers. Plaignant, la personne se croyant victime de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail, il peut s'agir d'un employé, incluant un cadre et la direction générale. Excusez, là, j'ai la ponctuation, j'ai oublié un point. Supérieur immédiat, cadre représentant le premier niveau d'autorité au-dessus de l'employé et qui exerce le contrôle direct sur l'exécution du travail de ce dernier. Violence au travail, toute agression qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Rôle et responsabilité. Toutes les personnes visées par la présente politique doivent adopter une conduite dépourvue de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Elles doivent également contribuer à la mise en place d'un climat de travail sain, notamment en signalant à l'employeur toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Le conseil municipal prend les moyens raisonnables pour prévenir ou, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, faire cesser le harcèlement, l'incivilité ou la violence au travail. Soutient la direction générale et les supérieurs immédiats dans l'application de la présente politique. Reçoit toute plainte qui vise la direction générale, auquel cas les articles de la présente politique s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. La direction générale est responsable de l'application de la présente politique, traite avec diligence tout signalement ou plainte et fait enquête ou le réfère à un expert à l'externe. Assure la diffusion de la présente politique et sensibilise les employés. Traite avec diligence tout signalement et plainte en prenant les moyens raisonnables pour maintenir un climat de travail sain. Facilite le règlement de tout conflit et collabore avec les différents intervenants. Informe la direction générale de tout signalement, plainte ou intervention d'intérêt. L'employé prend connaissance de la présente politique, collabore au mécanisme de règlement lorsque requis. Le plaignant signale toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail ou potentiel mise en cause de façon à lui demander de cesser de tels comportements. Signale la situation à un supérieur immédiat si le harcèlement, l'incivilité ou la violence au travail se poursuit. Collabore au mécanisme de règlement. Mise en cause. Collabore au mécanisme de règlement. Procédure interne de traitement des signalements et des plaintes. Tout signalement ou plainte sera traité avec diligence, équité, discrétion et de façon impartiale. Dans la mesure du possible, le plaignant doit rapidement signifier aux mises en cause de cesser immédiatement son comportement indésirable ou harcelant. Les mécanismes prévus à la présente politique n'empêchent pas une personne de se prévaloir des droits qui lui sont conférés par la loi dans les délais prévus à celle-ci. Mécanisme informel de règlement. Le mécanisme informel de règlement vise à éviter de perturber, outre mesure, le milieu de travail et à impliquer le plaignant et le mis en cause vers la recherche de solutions informelles de règlement de conflits. Les parties peuvent recourir à ce mécanisme en tout temps lors du traitement d'un signalement ou d'une plainte. Le plaignant signale le conflit auprès de son supérieur immédiat ou la direction générale dans le cas où son supérieur immédiat est en cause et il est informé des options qui s'offrent à lui pour régler le conflit. La personne qui reçoit un signalement ou une plainte doit vérifier la volonté des parties d'amorcer un mécanisme informel de règlement. Si les parties désirent participer à un mécanisme informel de règlement, la personne qui traite le signalement ou la plainte doit obtenir la version des faits de chacune des parties, susciter la discussion et suggérer des pistes de solutions pour régler le conflit, identifier avec les parties les solutions retenues afin de résoudre le conflit. Si le mécanisme échoue, la personne qui a reçu ou traité le signalement ou la plainte informe le plaignant de la possibilité de poursuivre avec le mécanisme formel de règlement. Elle informe la direction générale de l'échec du mécanisme informel. Cette dernière peut décider de faire enquête et déterminer les mesures applicables le cas échéant. On va prendre un petit peu d'eau, ça ne vous fera rien. Mécanisme formel de règlement du harcèlement. Le mécanisme formel de règlement ne s'applique pas au signalement, aux plaintes ou aux plaintes relatives à l'incivilité ou à la violence au travail, à moins qu'il ne s'assimile à du harcèlement. Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction générale au plus tard dans les 2 ans
suivant la dernière manifestation d'une conduite de harcèlement. Dans le cas où la plainte vise la direction générale, le plaignant la transmet directement au maire, préfet ou au comité de ressources humaines ou à l'élu désigné par résolution. Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la personne qui fait le signalement y consigne par écrit l'ensemble des allégations soutenues, soutenant sa plainte en s'appuyant sur des faits, en précisant, si possible, les dates et en indiquant le nom des personnes témoins des événements. Enquête la Direction générale lors de la réception d'une plainte. Vérifie de façon préliminaire ce qui a déjà été tenté pour régler le conflit. Décide si elle fait elle-même enquête ou si elle la confie à une tierce personne ou à un expert externe, si après collectivement personne désignée. Établit des mesures temporaires lorsque requis. La direction générale ou la personne désignée vérifie ensuite si la plainte est recevable et fait connaître sa décision par écrit au plaignant. Dans le cas où la plainte est jugée recevable, la direction générale ou la personne désignée examine l'ensemble des faits et circonstances reliées à l'allégation fournie par le plaignant. La direction générale ou la personne désignée avise tout d'abord verbalement le mise en cause de la tenue d'une enquête. Un avis de convocation écrit lui est par la suite transmis, et ce, minimalement 48 heures avant la rencontre pour obtenir sa version des faits. L'avis de convocation lui indique les principaux éléments de la plainte. L'enquête implique la rencontre des parties concernées par la plainte ainsi que les divers témoins pertinents. Lors de ces rencontres, le plaignant et mis en cause peuvent choisir de se faire accompagner par une personne de leur choix ou un représentant syndical qui n'est pas concerné par la plainte. Toute personne rencontrée, incluant l'accompagnateur, doit signer un engagement de confidentialité. Un accompagnateur ne peut être un témoin. Sa conclusion d'enquête, la direction générale ou la personne désignée produit un rapport écrit où elle conclut à la présence ou non de harcèlement. Pour donner suite à l'enquête, elle peut notamment rencontrer individuellement le plaignant et le mis en cause afin de les informer si la plainte est fondée ou non. Rencontrer le conseil municipal, la direction générale, afin de l'informer si la plainte est fondée ou non et lui faire part de ses recommandations. Le cocher, intervenir dans le milieu de travail du plaignant pour faire cesser le harcèlement, imposer des sanctions, convenir d'un accommodement raisonnable lorsque la plainte vise un élu, un citoyen, un bénévole, un fournisseur, orienter le plaignant ou le mis en cause vers un service d'aide aux employés ou de toute autre ressource professionnelle. Le plaignant peut retirer sa plainte en tout temps par écrit. Dans le cas où la plainte est retirée par le plaignant, la direction générale se réserve le droit de poursuivre l'enquête si elle le juge que la situation le justifie. Certaines mesures peuvent aussi être implantées afin de garantir un milieu de travail sain, et ce, même si aucune allégation de harcèlement ne s'avère fondée. Mécanisme formel de règlement de plainte ou signalement d'incivilité ou de violence au travail. Elle est forte, celle-là, elle est forte. Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction générale au plus tard dans les 30 jours suivant la dernière manifestation d'une conduite d'incivilité ou de violence au travail. Dans le cas où la plainte vise la direction générale, le plaignant transmet directement au maire. Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la personne qui fait le signalement y consigne par écrit l'ensemble des allégations soutenant sa plainte en s'appuyant sur les faits, les précisant, si possible, les dates et les événements et le nom de personne témoin des événements. Je ne l'ai pas déjà lu, non? Il semble que c'est redondant. En cas d'échec du mécanisme informel de règlement et en présence d'allégations d'incivilité ou de violence, la direction générale ou la personne désignée peut décider de faire enquête selon les règles généralement applicables et déterminer les mesures applicables cochées. Ce mécanisme trouve également application lorsqu'un fournisseur, un citoyen, un tiers ou un bénévole est visé par une plainte d'incivilité ou de violence. Dans un tel cas, la direction générale ou la personne désignée détermine les accommodements raisonnables applicables, le cas échéant. Dans le cas où un élu ou la direction générale est visé par la plainte, il est de la responsabilité du conseil municipal ou du maire de déterminer le processus approprié pour traiter le conflit. Sanction, l'employé incluant un cadre incluant un cadre de la direction générale, qui ne respecte pas le contenu de la présente politique, s'expose à des mesures administratives ou disciplinaires selon la gravité des gestes posés pouvant aller jusqu'au congédiement. L'élu, le citoyen, le bénévole, le fournisseur ou le tiers qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s'expose à des mesures administratives ou judiciaires selon la gravité des gestes posés. Confidentialité. L'employeur respecte le droit à la confidentialité des renseignements personnels relativement à l'application de la présente politique. Tout signalement et toute plainte sont traités avec discrétion et confidentialité est exigée de toutes les personnes impliquées. En conséquence, l'employeur reconnaît que ces renseignements demeureront confidentiels dans la mesure où l'employeur doit accomplir adéquatement les obligations ci-haut décrites. Tout mécanisme de règlement ou tout rapport d'enquête est confidentiel. Bonne foi. La bonne foi des parties est essentielle au règlement de toute situation. La recherche de la meilleure solution possible avec la collaboration de chacune des parties est privilégiée afin d'en arriver à un règlement juste et équitable pour tous. Toute personne à qui la présente politique s'applique, qui refuse de participer à l'enquête prévue au mécanisme formel de règlement, s'expose à une sanction. Le plaignant qui a déposé une plainte jugée malveillante, frivole ou de mauvaise foi s'expose à une sanction. Représailles. Une personne ne peut se voir imposer de représailles pour avoir utilisé des mécanismes prévus à la présente politique, ni parce qu'elle a participé au mécanisme d'enquête. Toute personne exerçant des représailles s'expose à une sanction. Révision et sensibilisation. La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin. Une copie de la présente politique est remise à chaque nouvel employé. Une copie signée par les employés, incluant les cadres et la direction générale, est déposée à leur dossier d'employé. Bon, bien, qui propose? Madame Leclerc, voulez-vous que je la relise? Secondé par? Qui seconde? Madame Rex? Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 6. Sécurité publique. 6.1. Embauche d'un préventionniste. Considérant que la municipalité de Saint-Jean, l'Île-Orléans et la municipalité de Saint-Laurent ont signé une entente conjointe pour l'embauche d'un étudiant à titre de préventionniste en sécurité incendie. Considérant les deux directeurs incendies ainsi que les deux directrices des municipalités ont participé à une entrevue avec la candidate à ce poste. Considérant que le comité de sélection est favorable à l'embauche de la candidature, la candidate. En conséquence, les proposés par, secondés par, est résolu d'appuyer la municipalité de Saint-Laurent dans l'embauche de Mme Ève-Marie Couillard à titre de préventionniste pour l'été 2020 et autorise le remboursement des factures selon l'entente signée. Qui propose? M. Lapointe, secondé par M. Fortier. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 6.2. Achats service incendie. Sécurité incendie. Il est proposé par, puis par, il est résolu d'autoriser les achats suivants pour le service de sécurité incendie pour un total de 430 $ excluant les taxes. 2 CRIC, bouteilles hydrauliques 20 tonnes, 180 $. 2 CRIC, bouteilles hydrauliques 8 tonnes, 70 $. Bois pour faire des blocs de travail, 30 $. 2 jack agricoles, 150 $. Qui propose? Madame Leclerc, secondée par M. Lapointe. Tout le monde d'accord? Unanime. 6.3. Entente entretien citerne Turcotte. Il est proposé par puis par. Il est résolu d'autoriser le paiement d'un voyage de terre pour niveler le terrain à la citerne Turcotte au montant de 450 $, excluant les taxes. Qui propose? M. Lapointe. Secondé par Mme Rix. Tout le monde d'accord? Unanime. 7. Transport routier. 7.1. Entente hors cours relative à la Côte-à-Fleur. Mme Elisabeth Leclerc informe qu'elle est en conflit d'intérêts et qu'elle s'abstient de participer au débat concernant cette résolution. C'est beau. Considérant que la propriété et l'entretien de la Côte-à-Fleur sont problématiques depuis les années 1960, considérant que les usagers de la Côte-à-Fleur ont déposé à l'encontre de la municipalité une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire et en mandamus à la Cour supérieure et que les principales conclusions de ce recours visent à ce que la Cour déclare la municipalité de Saint-Jean propriétaire de la Côte-à-Fleur et que l'entretien lui revient. Considérant que la municipalité a fait du MTQ une partie de l'instance par acte d'intervention forcé, considérant que suite au dépôt des procédures précipitées, plusieurs personnes et discussions ont eu lieu afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et de tenter de régler le dossier hors cours à la satisfaction de l'ensemble des parties. Considérant que la municipalité souhaite, sans égard au bien fondé des prétentions soutenues de part et d'autre, mettre fin au litige actuel. En conséquence, les proposés parts seront des parts. Il est résolu d'autoriser Maître Bouffard à signer la transaction à intervenir relativement au dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-023432-156 pour et au nom de la municipalité de Saint-Jean. Qui propose? Monsieur Letourneau, secondé par qui seconde? J'ai pas toute la main en même temps. Madame Rex, tout le monde d'accord? Unanime. 7.2. Programme d'aide à la voirie locale de Transport Québec. Attendu que la municipalité de Saint-Jean a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de $ pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie COVID-19. Attendu que les dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL. Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour les travaux curatifs des volets accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales. Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRL et RIRL, attendu que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant 65-85% des dépenses admissibles pour le volet AIRL et de 90-95% pour le volet RIRL, attendu que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans. Attendu que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 soient admissibles à une aide financière. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 janvier 2021. Attendu que la municipalité a choisi la source de calcul de l'aide financière par estimation détaillée du coût des travaux. Pour ces motifs, sur la proposition 2 approuvée et appuyée par, il est résolu et adopté par le Conseil de Saint-Jean-de-l'Orléans, confirme son engagement à faire réaliser les travaux sur les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. Qui propose? M. Lachance. Secondé par M. Lapointe. Tout le monde d'accord? Unanime. 7.3. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Considérant que la municipalité doit faire des travaux afin de rendre la Côte-à-Fleur conforme. Constant qu'il y a possibilité d'avoir du financement par le programme d'aide à la voirie locale par le sous-volet des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. En conséquence, il est proposé par secondé par, il est résolu d'autoriser la directrice à compléter et à transmettre la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale du sous-volet des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale. Qui propose? Monsieur Fortier, secondé par Madame Rex. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Adoption du règlement 2020-371 sur l'utilisation des éco-centres de la Ville de Québec. Attendu que la loi sur les compétences municipales et la loi sur la qualité de l'environnement confèrent aux municipalités certains pouvoirs dans les domaines de l'environnement, des matières résiduelles, de nuisance et de salubrité. Attendu que la municipalité de Saint-Jean a délégué sa compétence sur les parties résiduelles de la MRC de l'Île-Orient. Attendu que les citoyens de la municipalité de Saint-Jean ont accès aux éco-centres de la Ville de Québec. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Attendu qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Attendu qu'une copie du présent règlement a été mise à la disposition des membres du conseil municipal. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le présent règlement numéro 2020-371, intitulé « Règlement sur l'utilisation des éco-centres de la Ville de Québec », soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir. Article 1, préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, usager admissible. L'utilisation de l'éco-centre est strictement réservée aux activités résidentielles, les matières résiduelles provenant d'une activité institutionnelle, commerciale ou industrielle, ainsi que celles provenant d'organismes à but non lucratif, ne sont pas autorisées. Article 3, l'utilisation des services de l'éco-centre. Pour pouvoir utiliser le service d'éco-centre, l'usager admissible doit présenter son permis de conduire au préposé et déclarer le lieu d'où proviennent les matières résiduelles admissibles qu'il apporte. Article 4, nombre de visites annuelles permises. La gratuité du service de l'éco-centre est limitée à 2 visites dans une même année par d'adresse d'usagers admissibles. Article 5, tarification par visite supplémentaire. Lorsque le nombre maximum de visites annuelles est atteint, la municipalité de Saint-Jean facturera le tarif imposé par la Ville de Québec pour ces visites. Pour l'année 2020, cette tarification a été établie à 30 $ par visite citoyenne par la Ville de Québec. Pour les années suivantes, la tarification sera ajustée selon la tarification établie par la Ville de Québec. La MRC de l'Orléans fera parvenir à la municipalité de Saint-Jean la liste des utilisateurs en fonction de la facturation établie par la Ville de Québec. Article 6, entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Qui propose? Monsieur Lachance, secondé par Monsieur Lapointe. Tout le monde d'accord?
Oui.
Unanime. 8.2, analyse d'eau 2020. La municipalité de Saint-Jean offre à ses citoyens la possibilité de faire analyser l'eau de leur puits via groupe Environnex. Les intéressés pourront se procurer les contenants au centre administratif le 16 juin et 17 juin prochain. Les coûts sont à 40 $ pour l'analyse des coliformes totaux, colonies atypiques, E. coli et entérocoque, et 30 $ pour l'analyse des nitrites et nitrates. Nécessairement,
on a changé à
20 $. À 20 $, OK. Nécessairement, il y aura un protocole okay, concernant la COVID-19 sur l'accès aux services là, à ce niveau-là. 9, urbanisme. 9.1, dérogation mineure, 17 chemin des côtes. Monsieur Alain Tourneau, informe qu'il est en conflit d'intérêt et il s'abstient de participer au débat concernant cette résolution. Considérant la première demande de dérogation mineure relative à la distance pour le périmètre urbain qui est de 168 mètres pour le bâtiment d'élevage projeté et de 228 mètres pour le réservoir à ciel ouvert projeté au lieu de 356,8 mètres tel qu'exigé. Considérant que la deuxième demande de dérogation mineure qui relève de la distance pour l'emprise du chemin public qui est de 12 mètres pour le bâtiment d'élevage projeté établi à l'étrier au lieu de 23,8 mètres tel qu'exigé. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande à l'unanimité au conseil municipal d'accepter de présente demande de dérogation mineure sous les conditions suivantes. Les animaux de ferme du mi-temps étant sur le lot 138-P doivent être déplacés vers le lot 120-P pour ce faire. Une période de 3 ans est allouée. Une digue doit être construite au sud du bâtiment pour contenir le lisier de la citerne qui pourrait s'écouler. Cette digue doit pouvoir contenir toute la quantité de lisier qui est au-dessus du plancher d'étable en cas de déversement de la citerne. La construction doit se faire à un minimum de 356,8 mètres du point d'entrée de la zone verte de la route du mi-temps, voire le plan annexe. Il faut calculer 356,8 mètres à partir du point rouge. Considérant que les actionnaires de la ferme du mi-temps désirent modifier certaines conditions demandées par la municipalité via la résolution 2020-03-69. En conséquence, les proposés par appuyé par, il est résolu d'abroger la résolution 2020-03-69 et de la remplacer par la présente résolution. Le conseil municipal autorise les présentes demandes de régression mineure sous les conditions suivantes. Les animaux de la ferme étant sur le lot 138-P doivent être déplacés vers le lot 120-P pour se faire. Une période de 5 ans est allouée. Un chemin surélevé créant un bassin pouvant contenir 500 mètres cubes doit être construit au sud du bâtiment pour contenir le lisier de la citerne qui pourrait s'écouler. Un programme préventif de sécurité pour risque de retour de fumier doit être mis en place et approuvé par le conseil municipal. La construction doit se faire à un minimum de 354,8 mètres du point d'entrée de la zone verte de la route du Mitant, voir le plan en annexe, il faut calculer 354,8 à partir du point rouge. Et une résolution des dirigeants de la ferme du Mitant mentionnant qu'ils acceptent toutes les conditions de cette dérogation mineure et qu'ils ont été informés par le maire, Jean-Claude Pouliot, des limites et conséquences potentielles de cette dérogation si elles sont contestées. OK, c'est vous. Qui propose? Madame Brix, secondée par Monsieur Lachance. Tout le monde d'accord?
Oui. Monsieur le maire, vous avez oublié un article qu'on annulait.
Oui, c'est ça. Oui, c'est la demande de pour nos ingénieurs. Okay. La facturation supplémentaire. 10. Loisirs et culture, 10.1, appel de soumission des plans et devis de la Grange à Dîmes, considérant le projet d'améliorer la Grange à Dîmes, considérant que la municipalité doit faire des plans et devis du projet afin d'aller en financement, considérant que les coûts de ces honoraires sont estimés à plus de 25 000 $. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu d'autoriser la directrice générale à aller en soumission avec un système de pondération et d'évaluation des offres. Qui propose? Madame Leclerc, secondée par Monsieur Letourneau. Tout le monde d'accord? Unanime. 10.2, contrôle d'arpentage du terrain de la Grange à Dîmes, considérant que le projet d'améliorer la Grange à Dîmes, considérant que la municipalité n'a pas de plan de localisation du terrain, considérant que la municipalité a demandé à 3 firmes d'arpentage géomètre des soumissions pour un plan topographique. En conséquence, il est proposé par puis est par et résolu que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer la soumission de M. Picard et Picard au montant de 1100 $ taxes exclues, afin de faire un plan topographique du terrain de la Grange à Dîmes. Ce montant sera payé par le pacte rural, 70% et l'excédent non affecté, 30%. Qui propose? Mme Leclerc, on est par M. Fortier. Tout le monde d'accord? Unanime. Correspondance. On prend un petit peu d'eau parce que c'est long à lire, ça. Les correspondances, on n'avait pas grand-chose, je pense. Hein?
Non, c'est ça, tantôt, je vous les ai.
C'est ça.
On les a toutes passées.
Varia, il n'y a pas de Varia. Période de questions. On a reçu.
J'ai eu une question par courriel. Voici la question. J'ai lu ce week-end l'article du journal Le Soleil qui nous apportait plus d'éclairage sur la situation catastrophique d'abattage d'arbres sur la route du Mitant. Ma question, avez-vous un règlement pour encadrer le montage de lignes électriques par les agriculteurs sur leurs terres à Saint-Jean afin d'en préserver le paysage?
Et pour répondre à la question, à ma connaissance, il n'y a aucun règlement empêchant un producteur de monter une ligne électrique sur son sur sa terre.
Et la dame, elle avait une sous-question. C'est, la municipalité donne combien de temps à un propriétaire pour recouvrir la membrane de revêtement intermédiaire par air de sa propriété afin de préserver le paysage visuel de l'île d'Orléans?
Habituellement, il me semble que le règlement dit qu'une personne a un an pour compléter son ce qui a été demandé dans le permis. C'est ce qui est dans le règlement, habituellement, hein, pour compléter les travaux.
Voulez-vous que je demande à l'inspecteur s'il peut répondre peut-être?
Oui, mais on va vérifier, mais en termes généraux, habituellement, quelqu'un, à partir de du début des travaux, il y a un an pour compléter ses travaux. C'est beau. Donc, il est... Oui.
Il y a un an pour compléter les travaux. S'il ne complète pas, il en demande un
permis. Il a refait une demande de permis, simplement.
OK.
Plus sûr. Ça fait que... Il n'y a pas d'autres questions. Donc, il est 9h. 21h. Qui lève l'Assemblée? Madame Leclerc. Ah, 21h. Mettons 20h55.